Savoie Motors, votre concessionnaire Suzuki, vous présente Clap.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour votre émission Clap ce soir, 17-18, comme tous les soirs d'ailleurs. J'espère que vous allez bien en ce début de soirée. Alors, notre invité, c'est Virginie Duhamel. Alors, pour tout vous dire, Virginie, il y a quelque temps, elle nous avait contacté par l'intermédiaire d'Hervé en nous disant, j'aimerais bien venir parler un peu d'hypnose, qu'est-ce que vous en pensez ? On s'est rencontrés, on en a discuté, on a essayé de faire les choses comme elles doivent se faire. Et moi, je trouve que l'idée, elle est fort sympathique. Bonsoir Virginie.
Et bonsoir.
Vous allez bien ?
Oui, très bien. Peut-être un peu de stress, mais...
Mais non, vous allez voir, tout va très très bien se passer.
Je vais m'auto-hypnotiser, ça va aller mieux.
Virginie, qu'est-ce que l'hypnose ?
Alors, c'est un vaste sujet, l'hypnose. Hein. J'aurais peut-être long à partager. Déjà, ce que j'aimerais bien pouvoir dire sur l'hypnose, c'est le terme hypnose. Hein. Ça vient du terme grec hypnos, hein, qui signifie le sommeil. Mais en fait, c'est un petit peu un leurre, cette traduction, parce que l'hypnose, ce n'est pas vraiment un sommeil. C'est un état un petit peu de...
Second ?
Oui, un état second. C'est un état modifié. C'est une fréquence du cerveau qui est différente et qui permet de changer des choses et de changer quelquefois même de guérir aussi des choses.
Ça remonte à quelle époque ?
Alors c'est vrai que l'hypnose, elle a une très grande histoire. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça remonte même à 26 000 ans des traces que l'on a pu retrouver.
26 000 ans ?
26 000 ans avant Jésus-Christ, oui, dans des pratiques chamaniques où on a retrouvé des traces sur des peintures rupestres, il y avait déjà des démonstrations de ce qu'on pouvait comprendre être de l'hypnose. On a vu ça aussi dans les tablettes, il y avait déjà des tablettes à l'époque dans la civilisation sumérienne.
C'est pas les mêmes tablettes que... Non, on est bien d'accord, hein, c'est deux choses différentes. C'est pas les mêmes.
Voilà, et ça, ben voilà, il y a 4000 ans de ça, donc il y avait déjà cette culture de l'hypnose, hein, de soins.
Mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a 26 000 ans en arrière, l'hypnose permettait déjà de guérir certains maux.
Et oui. Alors, c'était des techniques peut-être un peu différentes. Sans trop savoir vraiment de comment cela devait fonctionner. Enfin, voilà, j'y étais pas. Où aller savoir, j'en sais rien. Et c'était déjà pour le soin, pour aider les gens.
De toute façon, je pense que ça n'a pas changé grand-chose, parce que l'hypnose reste l'hypnose, que ce soit il y a 26 000 ans en arrière ou aujourd'hui.
Alors oui, pour le cerveau, c'est certainement la même chose. Je garde quand même certaines précautions. Mais il y avait aussi à l'époque ce qu'on appelait du magnétisme animal, c'est-à-dire qu'il y avait des impositions de mains qui étaient associées.
Ce qu'on appelle des médiums, ou des guérisseurs.
Non, plus les guérisseurs ou du magnétisme. Et alors, ce qui est complètement fou aussi, c'est qu'on a peut-être un peu oublié ça, mais les rois, nos rois de France, comme les rois d'Angleterre, ils avaient, par ce droit divin, la possibilité de guérir les gens, et ils guérissaient les gens des écrouelles, en fait, c'était des maladies de fistules, bref.
Qu'est-ce que des écrouelles ?
Alors ça, c'est...
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une maladie qui était d'origine tuberculeuse, qui faisait des fistules, c'est pas très ragoûtant, mais c'est pour vous dire à quel point on donnait ce pouvoir au roi de pouvoir mettre des impositions de mains, donc là on parle de magnétisme animal, et aussi d'utiliser l'hypnose. Donc c'est cette façon, déjà, cette façon de parler, cette façon aussi d'être en lien avec la personne, et de ce mixte, de créer un processus de guérison, justement.
Alors, puis vous me parliez de tablettes, donc il y a des écrits, justement, qui concernent cette période, 26 000 ans avant J.C.
Ouais.
J.C. en plus.
Ouais.
Qui correspond à cette période et qui expliquait déjà, justement, la position des mains, ouais, l'hypnose.
Le fait de pouvoir parler, cette façon d'accompagner la personne, l'empathie, et l'écoute aussi beaucoup. Les Égyptiens, les Grecs aussi. On voit encore aujourd'hui, il y a des sanctuaires en Grèce qui sont restés. Il y a des ruines, hein, comme à Épidaure, par exemple, où on y pratiquait l'hypnose en groupe. Puis alors après, évidemment, on va passer plus dans l'hypnose moderne, avec à l'époque Franz Mesmer, hein, c'est un Autrichien, c'est pas Monsieur Mesmer qu'on connaît aujourd'hui qui fait des spectacles, mais où effectivement on commence à utiliser davantage l'hypnose et dans des milieux de plus hospitaliers, de soins. Alors après, il y en aura un paquet. Hein,
ça, mais vous ça êtes va en train de nous dire que ça y est, dans les hôpitaux, on commence
déjà à l'époque
à faire de l'hypnose.
Oui, et déjà c'était hein, Franz Mesmer, il est mort en 1825, donc vous voyez, ça fait déjà un
moment.
Ah
oui, déjà. Mm-hmm. Ah oui, quand même.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et on parle déjà là de l'hypnose moderne. Mm-hmm. Donc voilà, après, ça s'enchaîne de plus en plus, puisque c'est un outil merveilleux, on n'a besoin d'aucune médication. C'est une relation d'abord de confiance, hein, comme bien sûr on s'est rendu compte avec les médecins de famille, dès qu'il y a une relation de confiance, c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux, et ça aide aussi les gens à guérir. Et voilà, je pourrais en citer encore un paquet, hein, Paracels, le marquis de Puységur, l'abbé Faria, etc. Puis après on va passer à bien d'autres personnes, mais je vais peut-être pas toutes les citer, mais on peut aussi parler de Milton Erickson, qui a bien remis à jour les fonctionnements de l'hypnose et comment on pouvait se reconstruire avec l'hypnose.
Alors, la question que tout le monde peut se poser, comment vous faites justement pour hypnotiser les gens? Comment ça se passe?
Alors, déjà, c'est... Il y a deux choses. Il y a la relation avec
déjà,
la personne.
Oui, déjà la relation avec la personne, parce qu'après, c'est une question de confiance aussi. Hein.
C'est ça. Alors, c'est se sentir en confiance, se sentir bien. C'est aussi se sentir à l'écoute. Hein, parce que on peut avoir une formation d'hypnothérapeute et puis finalement de ne pas être dans cette relation, de ne pas être dans cette écoute. L'écoute est primordiale. Hein, et la PNL aide aussi à être encore plus précis dans le mode d'accompagnement et de questionnement. Donc voilà, c'est la relation à la personne qui est très importante. Et puis, il va y avoir aussi la technique où on va accompagner la personne à se mettre elle-même dans cette fréquence. C'est une fréquence, c'est une longueur d'onde du cerveau, en fait, hein, qui maintenant s'observe en hertz. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une technicité de l'électroencéphalogramme qui permet de voir l'activité du cerveau. Et qui va pouvoir mesurer la communication de toutes les neurones entre chacune de ces neurones et qui produit un courant électrique, et donc ça fait les ondes cérébrales, et c'est ça en fait qu'on va lire.
Donc si j'ai bien compris, vous allez chercher les ondes de la personne qui est face à vous pour essayer d'équilibrer tout ça. C'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je viens de raconter, non?
Disons que c'est la personne qui va se mettre dans cet état. Comment dire, c'est quasiment de l'auto-hypnose en fait. Hein. C'est pas le thérapeute qui va mettre la personne dans cet état d'hypnose, c'est l'accompagnement qui va faire que la personne qui vient consulter, elle va elle-même glisser dans cette phase. Il y a tout un processus comme ça d'écoute, un processus d'hyperfocalisation, un processus d'introspection, etc. Et puis, hop, la personne se met elle-même dans cet état. Alors, en fait, c'est quelque chose de vraiment simple. On le vit tous les jours, cet état d'hypnose. Cet exemple, il est très souvent utilisé parce qu'on le vit tous. Je vais prendre l'exemple de la conduite. Quand on fait un trajet depuis la maison pour aller sur son lieu de travail, il nous est tous arrivé à un moment donné d'arriver à destination et puis d'avoir complètement zappé s'il y avait un feu rouge, si le feu était rouge ce jour-là. Voilà. Eh bien, on est déjà dans une transe hypnotique légère. Donc c'est cette façon de pouvoir être là sans être tout à fait là.
C'est-à-dire qu'on a lâché un peu l'inconscient.
Et alors, on a une espèce de présence pour gérer son véhicule, parce que sinon, on sait bien qu'on va vite dans le fossé. Et en même temps, il y a l'inconscient qui est là, présent, et qui nous propose d'autres choses. Donc, on passe à d'autres types de pensées, de mécanismes, de projections, d'anticipations, ou des fois, on va chercher des choses dans le souvenir. Et quand les trajets sont très longs, eh bien, ce sont des moments, je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience.
On a même des moments, lorsqu'on est sur la route comme ça, on se dit, mais c'est marrant, parce que je n'ai pas l'impression d'être passé à cet endroit.
Exactement, oui, c'est vrai. Hein, et quand on a des longs trajets comme ça, moi j'adore, c'est des moments où j'organise des projets. Voilà, je peux construire des événements à venir parce que je suis dans une disponibilité particulière. On peut aussi se mettre dans cet état volontairement à la maison, dans son fauteuil. Mais voilà. Donc
c'est très simple l'hypnose.
C'est très simple l'hypnose. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner la personne dans l'objectif pour lequel elle est venue.
Hein. Bien sûr.
Parce que se mettre dans l'état, c'est une chose, mais après, c'est de pouvoir...
Il faut qu'il y ait un but.
Amener au changement, puisqu'on parle de soins majoritairement dans l'hypnose, eh bien, c'est de l'amener dans son changement, ce pourquoi elle est venue. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être guidé et de savoir comment guider la personne. Oui. Toujours avec beaucoup de bienveillance.
On en reparle après une page musicale.
Ok.
Je veux une grande parade, un défilé de chars, des serpentins, des fleurs, du bruit, une fanfare. Je veux une mascarade, un verre et un cigare, nous deux, un tango à trois temps. Je veux encore une fois seulement un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige, des phares, des lumières, de toi et moi avant l'hiver. Je veux une grande parade, une retraite au flambeau, des majorettes, une fontaine, je veux un drapeau, une petite mascarade, un carnaval à Bornéo, nous deux, un tango à trois temps. Je veux encore une fois seulement un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige, des phares, des lumières, de toi et moi avant l'hiver.
Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que c'est le genre de musique que vous aimez bien ?
J'adore.
C'est vrai ?
Ça rend cool.
C'est cool, hein ?
Il faudrait peut-être que je mette ça en séance.
Ah, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal.
Mais bon, moi, j'aime beaucoup, mais après, je sais pas si tout le monde aime ce genre de...
De musique ?
De musique, mais en même temps...
D'abord,
moi,
c'est reposant.
C'est vrai que c'est reposant.
Bah, voilà.
Mais en fait, je pense qu'on peut rentrer en transe hypnotique sur n'importe quel type de musique. Donc, y aurait moyen probablement que les gens amènent leur musique.
C'est pour... pas mal non plus. Hein. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais, peut-être, parce qu'en plus, la musique peut peut-être leur rappeler quelque chose et peut-être
c'est vrai que
se lâcher plus facilement.
C'est ça. Hein. La musique, c'est aussi un ancrage. Hein. C'est associer un souvenir émotionnel... Et bien souvent, dans mes séances, je propose aux gens de pouvoir se faire des petites compilations d'une musique d'une époque qui les booste. Voilà, parce que ce sont des bons ancrages. Ouais.
On continue sur l'hypnose. Restez à l'écoute de Séquence FM 107.1 sur Annecy pour votre émission CLAP ce soir, mesdames et messieurs, avec Madame Virginie Duhamel qui nous a rejoint. Dites-moi, comment on fait justement pour faire de l'hypnose ? Comment ça se passe ? Il y a une école ? Il y a, comment vous avez découvert tout ça ?
Alors, comment j'ai découvert tout ça ? Moi déjà, ça fait une vingtaine d'années que je
que vous exercez.
Je suis dans le domaine, oui. Ça a été une reconversion parce que j'ai toujours été à l'écoute des gens, malgré tout, dans mon métier. Et c'est, je crois que c'est cette bonne oreille qui a fait que j'ai eu envie d'aller plus loin dans la relation à l'autre et dans l'aide. Donc moi j'ai commencé par faire du coaching, ça m'a aidé dans mes activités d'entreprise et puis ça permettait de faire avancer et les gens en équipe, mais individuellement, mais pas suffisamment. Alors du coup je suis allée me former dans d'autres domaines comme la PNL qui est la programmation neuro-linguistique. Alors tout ça sont des intitulés un peu pompeux, mais ça veut dire que c'est une façon de pouvoir être un peu plus sur la longueur d'onde de la personne qui est en face de soi. Puis à partir du moment où on est sur la même longueur d'onde, on arrive à se comprendre et on arrive à s'entraider.
Et tout découle.
Et tout découle, effectivement. Alors, ça fait bien avancer aussi, du coup, la PNL, pas suffisamment loin. Et j'ai eu envie d'aller aider ce qui était à la source d'une problématique. Et c'est pour ça que je suis arrivée à l'hypnose.
Tout simplement.
Oui, tout simplement. Effectivement, les choses ont découlé les unes à la suite des autres. Bon, après, j'ai ajouté des cordes à mon arc parce que une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, c'est passionnant. Puis il y a toujours des outils complémentaires. On se rend compte de comment fonctionne le cerveau, de quoi il a besoin, de comment utiliser des choses très simples, des mouvements des yeux, des tapotements. Enfin voilà, c'est encore un ensemble de techniques.
Ça faudrait qu'on en parle un jour aussi.
Ce serait avec plaisir. Parce que c'est simple aussi, mais il faut le faire au bon moment et voilà, être dans cette confiance et fluidité et puis la maîtrise évidemment des outils. Alors après, bien l'hypnose, oui, on se forme à l'hypnose. Quelquefois, les gens pensent que c'est un don. Alors le don, ce serait plus le don de pouvoir écouter. Mais par contre, voilà, il y a des techniques concrètement. À l'époque où j'ai appris, eh bien, je suis allée me former en Suisse, mais il y avait déjà une école à Paris, à Lyon, en Belgique. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. Voilà, donc c'est une école, il faut mettre tout de suite en pratique derrière et bien souvent uniquement l'hypnose, moi je dirais que c'est pas suffisant.
Il faut approfondir tout ça,
oui,
il faut mettre quelque chose en plus,
oui.
Il faut que ce soit l'hypnose plus,
oui.
Voilà, tout simplement. Et dire aussi que tout le monde peut faire de l'hypnose.
Oui, tout le monde, à partir du moment où il y a cette bienveillance, ne pas chercher à tirer
cette
parti
envie
de
aussi.
Quoi que ce soit, oui.
Cette envie de faire du bien.
Oui, envie d'aider l'autre, faire du bien, parce que tous les jours, quand on est confronté aux difficultés des gens, aux pleurs des fois des gens, ou des fois des gens qui sont très en stress, bien, il faut avoir envie tous les jours d'accompagner, quoi.
Je pense. Une page musicale, et j'aimerais bien que l'on revienne sur le sujet de l'hypnose, parler l'hypnose pour la santé, pour le sport, pour tout ce que cela peut amener comme bien-être. À tout de suite.
Avec plaisir.
De vous à moi, t'attendent pas, beaucoup trop, je crois. La nuit tombe déjà entre rire et larmes. J'ai perdu mon âme à vos jeux de dames et de rois.
J'étais pour vous un clown, voilà tout, l'idiot et le fou. Tellement fou de vous. Pardon, jolie dame, de quitter le jeu. Je dépose les armes. Adieu.
De vous et moi, il ne restera pas grand chose, je crois. Vous êtes loin déjà. Votre rire m'élame, quelques bleus à l'âme pour un pauvre diable aux abois.
Car je n'aurais jamais été pour vous qu'un clown, voilà tout, l'idiot et le fou, tellement fou de vous. Adieu, jolie reine, rendez-le. Ce prince qui vous aime pour deux.
Eh bien, dites-moi, l'hypnose. Quelles sont les applications de l'hypnose, justement?
Oui, alors c'est vrai, là on a parlé un peu de l'historique, comment ça fonctionne. Et c'est vrai, quand on voit cet historique depuis 26 000 ans que ça existe...
C'est impressionnant.
Oui, déjà. Et c'est de se dire que c'est pas pour rien, en fait.
Dites-moi, je vous coupe, mais ils avaient tout compris déjà à l'époque.
Oui, c'est sûr. Ils étaient bien plus proches peut-être de l'individu que l'on l'est aujourd'hui.
On est un peu en retard.
Oui, ils tentent de se rattraper, raccrocher les wagons, là, c'est clair. En tout cas, ça fait bien comprendre que l'hypnose a toujours été là dans l'idée du soin. Et effectivement, l'hypnose est là pour aider. Et en PNL comme en hypnose, on voit que finalement, tout ce que le cerveau construit, il peut le déconstruire. Alors par exemple, quelqu'un qui se crée une peur ou qui a eu peur peut déconstruire ce phénomène de peur. Et ce qui veut dire qu'il y a une multitude de situations, de circonstances où on va pouvoir amener à retrouver de la fluidité dans la vie de la personne. Alors je peux vous énumérer une quantité de situations où l'hypnose a complètement son intérêt.
La santé déjà?
Ah, complètement, bien sûr, la santé, donc la santé, le sommeil, des fois des problèmes alimentaires, donc les gens aussi avec des problématiques d'amincissement, c'est pas que de l'esthétique, il y a des gens qui ont besoin de mincir pour des problèmes articulaires, les addictions, que ce soit le tabac. Alors évidemment, c'est juste extraordinaire, l'hypnose, pour les arrêts tabac. C'est, pour le coup, oui, ça fait un tabac.
Alors bon, la question que tout le monde peut se poser, parce que je suis persuadé qu'on a des auditeurs et des auditrices de Séquence FM qui fument, vous pensez que la méthode est bonne pour l'hypnose, pour arrêter de fumer?
Ah, c'est excellent, l'hypnose, c'est un des outils les meilleurs pour arrêter de fumer.
Je vous recoupe à nouveau, mais pour que ce soit efficace, est-ce qu'il faut y croire? à l'hypnose ?
Non, pas du tout. Non, non. À partir du moment où la personne a juste envie, par exemple, d'arrêter de fumer, eh bien, après, on va faire le travail ensemble. Il y a un questionnement, des petits exercices. Moi, je le fais en deux étapes. Ça laisse les gens tranquillement le temps de se préparer à l'idée, de faire les petits exercices, de reprendre un peu la main sur cette cigarette, de retrouver un peu leur pouvoir, en quelque sorte. Et puis, la page se tourne, voilà, bien plus facilement.
En combien de séances ?
Deux, majoritairement, deux, ça suffit.
Et deux puis, séances, ça suffit amplement.
Oui, bon, il y a des personnes aussi qui arrêtent avec la première séance.
Oui, parce qu'ils sont peut-être beaucoup plus sensibilisés, justement, ou...
Non,
ils perçoivent peut-être les choses différemment ?
Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de loi, parce que j'ai eu des personnes qui étaient avec deux paquets par jour, qui ont arrêté avec la première séance, alors que ça faisait 40 ans que ces personnes fumaient. Donc, oui, c'est difficile de faire des statistiques. Et c'est pour ça que des fois, les gens me demandent « Mais à combien de pourcents ça va marcher ?» Et l'humain ne répond pas à ce genre de statistiques parce qu'on est une mécanique des rouages bien différents des uns des autres, sensible, avec une histoire de vie. Donc, on ne peut pas mettre des chiffres sur l'humain.
Tout à fait. Donc on peut arrêter de fumer,
la santé,
le sport peut-être.
Des problématiques digestives, des problèmes de peau, le sport, parce qu'en fait, à partir du moment où on se crée des freins,
je reviens un petit peu en arrière, oui. Les problèmes de peau.
Oui, on peut venir travailler sur les problèmes de peau, d'eczéma, on peut travailler sur des douleurs récurrentes, chroniques. C'est très large, je peux même aller encore plus loin, les problèmes de sommeil, des problèmes de séparation, rien que par exemple des ados qui doivent aller faire des études plus loin.
Ou un examen.
Et le nombre d'adultes que j'ai où ils ont des problématiques de séparation qui datent de cette période-là, il y a une multitude de situations de vie qui, dès qu'il y a eu un stress, un petit traumatisme, et il ne faut pas le prendre à la légère, un petit traumatisme, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur.
Ah, tout à fait, oui.
Quelqu'un qui a eu un accident de voiture peut, au bout d'un moment, ne plus parvenir à reprendre son véhicule. J'ai eu le cas de personnes qui avaient eu un souci en passant dans un tunnel et c'était juste impossible pour la personne, après coup, de reprendre son véhicule. Après, à partir de là, tout ce qui était enfermement l'impressionnait. Donc après, la personne ne pouvait plus prendre d'ascenseur, elle ne pouvait plus aller dans un établissement public, elle avait peur du public, donc après, c'est crescendo. Donc c'est jamais anodin et il est toujours temps de venir réparer ça avant que ça ne fasse boule de neige.
Et là, en combien de séances ?
La problématique de la route ?
Oui, le problème de la problématique de la route, là, justement, c'est avec cet accident-là.
Alors, l'hypnose, c'est intéressant parce que ça va quand même assez vite à la source. Ça peut faire 2-3 séances. Après, voilà, je dis ça en moyenne parce que je ne peux pas toujours non plus savoir l'histoire de la personne.
Donc l'hypnose, si j'ai bien compris, c'est qu'une question de questions-réponses entre l'inconscient, c'est ça ?
Oui.
On peut dire ça comme ça ?
Oui, effectivement, l'inconscient, on a l'impression qu'on l'a appelé inconscient parce qu'il n'était pas conscient, sauf qu'il est bien plus conscient qu'on ne pense, il est toujours là en fait, à enregistrer, photographier tout ce qui se passe. D'ailleurs, il va même aussi comme photographier des situations et on s'est rendu compte qu'on peut travailler en hypnose avec sur les allergies, parce que les allergies, c'est une espèce de photographie émotionnelle d'une situation qui fait qu'après, le corps va se défendre de tout ce qu'il a enregistré dans ce moment traumatique et de ce fait, il va rejeter, y compris un produit qui pourrait être dans l'air, comme des pollens ou que ce soit alimentaire, parce que ce jour-là, la personne a mangé une tarte à la fraise ou un poil de chat, etc. etc. quoi.
Parfait. Et ça peut aussi remonter à l'enfance ?
Absolument. Oui, complètement. Il y a bien sûr bien souvent
un problème qui s'est déroulé à un moment bien précis dans l'enfance ou alors peut-être une séparation, une perte,
exactement, même
quelque chose de dramatique, je veux dire.
Tout à fait. Vous parlez des allergies ou vous parlez de
allergies, oui. des soucis de voilà, je sais pas, un gamin qui a perdu sa maman ou qui a perdu son papa et
alors,
qui est traumatisé toute sa vie.
Absolument, et donc c'est important d'y travailler parce qu'il y a une notion de vide, une construction qui ne s'est pas faite. Et ben, là, pour le coup, ça pourrait demander un peu plus de séances parce qu'il doit y avoir un travail de reconstruction. L'adulte s'est quand même réalisé dans sa vie, mais malgré tout, il y a toujours un manque. La personne est toujours en train de chercher à combler, à comprendre, à trouver une personne de référence. Et c'est comme si, quelque part, elle n'arrive jamais à prendre sa place dans la vie. Bien sûr qu'il y a énormément de choses qui prennent racine dans l'enfance et même quelque chose des fois qui proviennent de la phase fœtale avant que le bébé ne soit né. Si la maman était dans une période où elle vivait un deuil parce qu'elle venait de perdre quelqu'un de proche, le bébé l'enregistre et il peut être très influencé dans la peur de la perte ou la peur de ne pas être là au bon moment ou... Il y a une multitude de façons d'interpréter pour la personne qui a vécu cela.
Une page musicale, mm-hmm. et juste derrière, on parlera justement de votre clientèle hein, que vous avez depuis 20 ans maintenant. Mm-hmm. On parlera un petit peu justement de cas que vous avez pu soigner et nous dire exactement quelle est la tendance, si c'est plus pour la santé, si c'est plus pour l'enfant, si c'est plus pour des choses un petit peu atypiques. Musique. Mm-hmm.
Stuff you're telling me and anyone, you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you.
Hey!
Eh bien, vous êtes à l'écoute de Séquence FM 107.1 sur Annecy. Surtout, ne changez rien, mesdames et messieurs, ce soir avec notre invitée Virginie Duhamel, puisque nous parlons hypnose. Alors, la question que je voudrais vous poser, pour l'estime de soi, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec l'hypnose ?
Alors oui, un énorme oui, parce qu'on a tous été concernés par cette question à un moment donné dans sa vie, et puis on peut l'être même tout au long de sa vie, parce que c'est quelque chose qui peut des fois être remis en question. Il y a des événements qui bousculent et qui font qu'on se demande voilà, ce que ça touche profondément au niveau de ses valeurs. Et oui, l'estime de soi, tout à l'heure vous me posiez la question de est-ce que ça peut prendre racine dans l'enfance, énormément, bien sûr.
Est-ce que c'est la plupart, d'ailleurs, de vos patients ?
J'en ai beaucoup, oui, concernant des situations de confiance en soi, d'estime de soi, donc de ce fait, la difficulté à prendre place dans un travail, dans sa vie, faire des choix, pouvoir se positionner des fois aussi dans sa famille. Je parle de par rapport à ses parents. Il y a des personnes qui sont adultes, qui sont en couple, qui créent des familles, et pourtant elles sont toujours avoir de la difficulté à se positionner, à prendre leur rôle d'adulte. Même pour prendre des décisions, savoir ce qui est juste dans sa vie, pour les siens. Donc je crois que ça touche tout le monde à un moment donné dans sa vie, cette notion d'estime de soi. Donc oui, cet outil, il est très, très utile à ce propos, oui.
Alors l'estime de soi, l'enfance, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que les vies antérieures ?
Alors, c'est vrai que c'est un sujet que j'affectionne beaucoup, parce que moi j'y crois. J'ai fait également des séances où j'ai pu contacter ce genre de situation. On le vit tellement avec transparence que ça paraît complètement réel, complètement vrai. Donc après, est-ce que scientifiquement on va le prouver un jour ? Aujourd'hui, on arrive quand même à...
Je pense que ça va être compliqué quand même.
Peut-être pas, parce qu'avant, on ne pouvait pas prouver que l'hypnose fonctionnait. Aujourd'hui, on arrive à lire l'activité du cerveau sous encéphalogramme. Donc ça va devenir possible, je pense, un jour. Donc voilà, ces vies antérieures, eh bien, que ce soit une réalité ou que ce soit une mémoire quelque part à laquelle on est relié, eh bien, peut aussi nous influencer énormément dans notre vie.
Sur le présent.
Sur le présent. Et j'ai pu constater, accompagner des personnes avec des situations, même avec de l'hypnose, on avait bien avancé, et puis la situation revenait ou ne disparaissait pas complètement. Et on a pu travailler justement sur des mémoires antérieures, et où on est allé
Mais qu'est-ce que l'on entend par vie antérieure ? C'est-à-dire que vous êtes à même de remonter dans le passé pour savoir à quelle époque cette dame ou ce monsieur a-t-il vécu et les expériences qu'il a eues dans ce passé.
Oui.
C'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. On porte cette mémoire quelque part autour de nous, même si elle ne se voit pas, elle est quand même là. On y est relié, et donc c'est de se mettre sur le bon canal, comme une bonne fréquence radio, pour aller écouter Séquence FM par exemple, et puis finalement remonter le temps. Et très précisément, la personne peut retrouver l'année, la période, si c'est une femme, un homme, quel âge elle a à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, qu'est-ce qui se passe autour d'elle, et qu'est-ce qui fait qu'il y a ce frein, pourquoi cette personne est allée contacter ce moment-là. Alors c'est vrai que c'est carrément fascinant déjà d'accompagner quelqu'un qui vit ça. Moi-même,
on est bien d'accord que le patient, il faut déjà qu'il y croit à tout ça. On est bien d'accord.
Alors,
tout le monde n'est pas sensibilisé justement par le fait de remonter dans le passé.
Non, c'est vrai, tout le monde n'est pas sensibilisé, mais on n'est pas obligé d'y croire, parce que moi j'ai eu des situations où j'accompagnais quelqu'un pour une problématique, je demandais à ce qu'on aille à la source d'un problème, et on s'est retrouvé dans une autre vie. La personne m'a dit, écoutez, c'est bizarre, j'ai dû poils sur mes pieds, j'ai des gros pieds, donc on peut y aller, on peut
ça
y
fout
aller.
Fou les jetons tout ça.
Pas du tout, c'est simplissime en fait. Alors les gens vont aller voir des films au cinéma, ils vont aller se faire peur ou vont regarder des films de science-fiction, mais ils vont pas se remettre en lien avec leur propre histoire, parce qu'en fait on a plein de rémanences de nos vies antérieures dans cette vie-ci. La façon, nos goûts, notre façon d'être, ce qui nous passionne, ce qui nous attire, des fois on est doué dans un domaine et c'est ça pourrait être, semble-t-il, enfin moi j'y crois dans ce sens-là, parce que
c'est pas par hasard.
C'est pas par hasard, effectivement.
C'est vrai. Pourquoi vous m'avez dit que j'étais un chevalier dans le temps? C'est pas vrai, je plaisante.
Mais on va aller voir ensemble, probablement qu'il y a une résonance avec la chevalerie, oui.
Alors, est-ce que justement... Alors moi, ça m'arrive de temps en temps, j'arrive dans un endroit où je ne suis jamais venu, je ne suis jamais passé. Et je regarde ces endroits, puis je me dis, je connais, je suis déjà venu ici, il y a quelque chose qui me rappelle quoi, je ne sais pas. Est-ce que justement, ça fait partie aussi de cette hypnose que l'on peut se faire soi-même et peut-être remonter comme ça dans le temps, je ne sais pas, c'est une question un peu confuse, mais est-ce que vous avez compris ce que je voulais vous expliquer ?
Absolument, absolument. Alors, de mon expérience, oui, c'est parce que vous avez pu déjà avoir pu visiter ce lieu, peut-être dans une autre vie.
Et qui était ancré dans ma mémoire ?
Absolument, oui, oui. Alors après, il y a les scientifiques qui vont vous dire que c'est parce que vous avez été sur le lieu sans porter attention, que vous avez photographié l'instant avec l'inconscient qui photographie tout, et l'instant d'après vous allez être attentif à ce que vous voyez et vous allez vous dire tiens, ça me rappelle quelque chose, parce que les quelques secondes précédentes vous aviez photographié la situation. Alors bien sûr que chacun va pouvoir avoir son école, sa façon de voir, et par contre je ne suis pas la seule à considérer que ça pourrait faire partie de tous ces signaux de vie antérieure, comme des objets que par exemple au Tibet, les lamas vont donner des objets à un enfant quand il cherche à retrouver la réincarnation d'un lama. Et l'enfant, eh bien, il va choisir typiquement les objets qui appartenaient à sa vie précédente. Donc bon, il y a plein de choses comme ça qui permettent, sans aller faire de séances, qui nous donnent déjà des informations, des signaux.
Parfait. Une page musicale et on revient sur ce sujet parce que franchement, c'est intéressant.
Thank you.
Voilà une question que tout le monde doit se poser aussi, la peur de l'hypnose.
Ah, oui, c'est vrai qu'il y a quand même encore pas mal de personnes qui ont peur. Alors, voilà, quand on voit l'histoire, on se rend bien compte que l'hypnose est là plus pour aider. Et il se trouve qu'il y a eu aussi des spectacles. C'est intéressant, c'est amusant, les spectacles. Mais dans ce côté spectaculaire, on va plus y voir comme des injonctions un peu hein, de la personne qui fait le spectacle. Et ça peut amener les gens à avoir peur ensuite, se dire mais moi je ne veux pas que tomber quand on compte jusque 3 et qu'on claque des doigts, ou je ne veux pas m'endormir et ne pas me réveiller.
Est-ce que ça vous porte préjudice justement vous dans votre métier? Oui, non?
Un peu, je crois, oui, parce que j'ai l'occasion des fois d'en parler avec des personnes et les gens me disent « Ah ben non, mais moi l'hypnose, je n'irai jamais parce que j'ai trop peur de ne pas me réveiller, ou j'ai trop peur que vous alliez dans mon esprit et que vous changiez quelque chose. » En fait, c'est absolument pas ça, parce que encore une fois, on a une déontologie, on est à l'écoute de la personne, on va travailler uniquement sur la demande de la personne. C'est très cadré, c'est ciblé, en fait. C'est ça qui est aussi intéressant avec ces techniques. Et puis encore une fois, si cette technique existe depuis si longtemps et qu'on s'en sert maintenant même dans le milieu hospitalier, même pour faire donc de l'anesthésie, on n'utilise plus de médication, eh bien c'est bien dire que eh bien c'est un outil qui est bien utilisé, qui est là pour aider les gens.
Mais ça vous est déjà arrivé, ou un patient qui vient, qui prend rendez-vous, qui rentre dans votre cabinet, qui dit tout d'un coup non, j'ai trop peur, je le sens pas, je vais pas le faire. Ça vous est arrivé, ça?
Sur mes années d'expérience, j'ai eu quelques cas de quelqu'un qui avait des tels problèmes de sommeil qu'elle venait là en dernier recours. Mais elle avait une peur pas possible de cette idée de l'hypnose. Donc, il y a eu comme un effet de panique et finalement, on a cadré. On n'a pas fait la séance tout de suite. On a fait d'abord de la relaxation. Et puis, la séance d'après, on a fait la séance d'hypnose.
Voilà. Et cette dame dort maintenant?
Normalement, elle doit dormir parce que je n'ai plus de nouvelles. Donc
c'est bon signe.
Oui, tout à fait.
C'est bon signe.
Alors, c'est vrai qu'en général, les gens, quand ils vont bien, ils donnent plus de nouvelles. C'est vrai qu'on peut aimer des fois avoir des nouvelles. Les gens, comme je fonctionne énormément par le bouche à oreille, souvent c'est comme ça que j'arrive à avoir des nouvelles des personnes.
Parfait. Au niveau, on vit quand même dans un monde qui est relativement tourmenté en ce moment. Les gens qui sont stressés, un peu.
Oui. Ces situations de
burn-out. Ces situations de burn-out, comment ça se passe?
C'est de plus en plus des dépressions, des burn-out. C'est aussi quelque chose qui s'accompagne très bien avec l'hypnose, parce que bien souvent, la personne elle est allée s'épuiser, à s'investir avec ses valeurs, et c'est très identitaire. Et donc, en fait, elle va comme s'anéantir, en fait. Hein. C'est presque
un burn-out,
si...
oui, c'est ça.
Oui, oui.
Et donc, vous arrivez, vous, à remettre tout ça sur les rails?
Ça demande quand même
un peu de travail.
De temps, oui. Il faut y aller tranquillement, parce que la personne a besoin de temps, justement. Parce qu'elle a tellement été sous pression qu'il lui faut aussi du temps. Mais j'ai accompagné des personnes qui étaient en dépression ou des personnes qui étaient dans des burn-out et qui se sont reconstituées, qui ont mis le pied à l'étrier. Ouais.
Parfait. On rappelle que l'hypnose, ça n'a rien à voir avec la médecine, on est bien d'accord.
Oui, c'est important effectivement de le dire, même si aujourd'hui les milieux hospitaliers l'utilisent, mais ce que font les hypnothérapeutes, c'est complémentaire à la médecine traditionnelle. Voilà, ça ne remplace pas. Voilà, effectivement, c'est important de clarifier.
Il faut quand même le signaler quand même.
Oui,
on est bien d'accord.
Oui.
Si on veut prendre rendez-vous, comment ça se passe, Virginie? Dites-moi tout.
Eh bien, je peux effectivement donner mes coordonnées. Alors, j'ai un site internet. Déjà, rien qu'en tapant mon nom, Virginie Duhamel, sur internet Google, il y a mon site qui va apparaître. Sinon, mon site, c'est info, I-N-F-O-S, at hypnocoach, parce que je fais également du coaching. Donc, H-Y-P-N-O, -6, coach.coach.fr. Et puis j'ai le téléphone, vous pouvez soit me laisser un message ou il y a également un secrétariat, donc mon téléphone c'est le 06 15...
On rappelle que c'est un numéro
42.
Pro, hein.
Oui,
d'accord.
Absolument, 06 15 42 15 52, voilà, c'est un numéro qui se répète assez facile, 06 15 42 15 52.
Et vous êtes installé sur Antibes, boulevard
oui,
du Fier, c'est
exactement,
ça?
Exactement, oui. Je suis au 24 boulevard du Fier à Annecy.
Parfait. Si on reprend rendez-vous, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans le sujet de certaines choses qui m'ont tilté, que j'ai tilté. J'aimerais bien qu'on en reparle un peu quand même.
Ben avec grand plaisir, parce que c'est un domaine qui est vraiment passionnant. Et puis, je viens de prendre goût là à la
c'est
radio.
C'est sympa la radio. Ah,
c'est complètement super. surtout qu'on a un rayon de soleil là qui entre.
C'est cool.
Ah oui, c'est très bien. Puis en plus, vous mettez à l'aise. Et c'est vraiment très chouette à Séquence FM de pouvoir m'accueillir et puis aussi de pouvoir parler de cette passion.
Donc, voilà. Et en plus, on rappelle que vous êtes une auditrice de Séquence FM 107.1 sur
Annecy. Complètement, addict.
Merci en tout cas.
Merci
donc
beaucoup,
à
Yves.
Très, très, très bientôt.
Avec plaisir. Ouais.
Au revoir.
Me souviens d'un vase et des fleurs anémiées sur ce bord de soleil. Une facture de gaz, camel et cendrier et les cris du réveil. Je me souviens du film et de son somnifère de héros fatigués. Une histoire de crime qu'un couple sans mystère n'avait pas préparé. Mais je ne me souviens plus de toi. Je ne me souviens plus. Je me souviens de l'heure et du vin renversé que buvait le napperon, de la forme d'un cœur qu'un verre de son pied avait fait en deux ronds. Je me souviens aussi qu'il y avait un cheveu qui prenait la lumière sur l'anthracite sali d'un bord de col douteux au parfum de mystère. Je ne me souviens plus de toi. Je ne me souviens plus de toi. C'est fou ce que je me rappelle. C'est fou ce dont je me souviens. C'est ma mémoire qui se morcelle. D'un couteau émaillé et du chat endormi. En s'étirant les hanches, il s'était réveillé et était reparti. Par la fenêtre ouverte, on entendait la vie dérouler son train-train. Quelques mouches inertes gisaient sur le tapis de ça, je m'en souviens. Je ne me souviens plus de toi. Je ne me souviens plus de toi. Ce que je me rappelle, c'est fou ce dont je me souviens. C'est ma mémoire qui se morcelle. Sirènes hurlantes et les blouses morbides qui jouaient au docteur étaient peu élégantes. Je me souviens encore de ces ombres qui tranchent sous les néons blafards. Qu'il y avait un ressort pour peu que l'on se penche qui manquait au brancard. Mais je ne me souviens plus de toi. Non, je ne me souviens plus de toi. Je ne me souviens plus de toi. Je ne me souviens plus de toi.